Il y a des choses très logiques qui coulent de source et pour d'autres, ça l'est pas. Et c'est ça qui peut, pour le coup, déclencher le plus d'émotions internes, on va dire. Ça va de l'incompréhension à la colère, beaucoup de colère. Jamais du découragement, mais de la fatigue parfois.
Hello, c'est Maëlys. Je suis responsable de communauté aux Pépites Vertes. Je vous accueille aujourd'hui dans Au Cœur, un podcast imaginé suite à mes différentes rencontres avec les pépites de ce monde et les pépites en devenir. À leur contact, j'ai pu vivre l'importance de discuter ensemble du vécu de l'engagement et des émotions que l'on traverse lorsqu'on s'éloigne de la voie toute tracée. Dans Au Cœur, j'invite des jeunes qui ont fait le choix de l'engagement professionnel pour répondre à des émotions qu'ils prenaient aux tripes. Ces pépites nous racontent leur histoire et leurs questionnements, de la colère et l'émerveillement, du renoncement à l'engagement. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Yuna, passionnée de communication. On y parle des conséquences de l'évolution de son mode de vie, d'à quel point il est essentiel de considérer les liens entre différentes causes sociales et environnementales, et de son plus grand conseil, le plus important, c'est de s'écouter. Hello Yuna, comment vas-tu?
Très bien, et toi Maëlys?
Ça va très bien, merci. Je suis très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Merci de nous rejoindre dans Au Cœur. Dis-moi, pour commencer cet épisode, est-ce que tu pourrais un peu me raconter ce que tu fais dans la vie?
Bien sûr. Moi, aujourd'hui, je suis chargée de communication dans une entreprise qui s'appelle Cogitera, qui gère à la fois Actu Environnement et Emploi Environnement. Actu Environnement étant un média d'information pour les professionnels de l'environnement, plutôt du côté industrie de l'environnement, donc déchets, eau, énergie. Et Emploi Environnement est un job board pour ces métiers de l'environnement et de l'industrie de l'environnement.
Donc un job board, une plateforme de recrutement. Et toi, du coup, en tant que chargée de communication, qu'est-ce que tu fais au sein de ces structures exactement?
Alors, pour Actu Environnement, je vais m'occuper notamment de la gestion des réseaux sociaux et de communication assez classiques, mais aussi la gestion des partenariats qu'on a beaucoup, notamment des partenariats événementiels. Et pour Emploi Environnement, un peu de communication classique, mais aussi un projet qui est assez un peu particulier, qui est celui de la gestion de créer une relation avec des écoles pour faire en sorte de faire découvrir Emploi Environnement aux jeunes qui sont en études et aussi aux personnes qui sont en recherche de leur premier emploi, pour leur faire découvrir un peu les métiers qui sont présents sur Emploi Environnement, donc ceux de l'industrie de l'environnement. Et leur montrer qu'il y a une forme d'impact possible aussi avec des métiers un peu plus techniques que ceux qu'on a l'habitude de voir dans la sphère des métiers à impact.
Trop bien. Donc vraiment inspiration des jeunes pour qu'ils se joignent au combat. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et nous expliquer du coup comment toi t'en es arrivée à travailler là-dedans? Comment t'as été sensibilisée au début sur ces questions-là?
Alors moi, ces questions-là, j'ai l'impression d'avoir baigné dedans depuis toujours. Parce qu'en fait, mes parents ont toujours eu des valeurs assez fortes, que ce soit un engagement écologique dont on parle beaucoup chez les Pépites Vertes, mais aussi des engagements sociaux. Et du coup, depuis toujours, j'ai eu l'impression d'avoir envie de travailler dans ce genre de métier. J'ai d'ailleurs commencé en tant que professeur pour le français langue étrangère. Donc, il y avait pour le coup un impact un peu plus social, puisqu'il y avait une histoire d'intégration qui était assez forte. Et quand j'ai décidé de me réorienter plutôt vers la communication, j'ai choisi surtout des entreprises avec un impact écologique assez fort, qui soit soit passif, donc du bio, pour des marques bio par exemple, qui pour le coup sont intrinsèquement. On va dire vertueuses, et d'autres plus actives, donc qui vont activement faire en sorte de changer les choses dans les milieux dans lesquels ils peuvent avoir un impact.
Et tu m'avais également expliqué que toi, t'étais aussi beaucoup rentrée justement par ces questions de l'alimentation, et notamment du véganisme, et peut-être aussi grâce au coût de la viande, et ça avait été tout un process. Est-ce que tu peux un peu expliquer ça?
Tout à fait. Alors moi, au tout début, effectivement, ma vraie origin story de mon début de végétarisme, c'est qu'en fait, un jour, je me suis rendu compte que la viande, c'était cher, et je me suis dit peut-être que je pourrais ne pas en manger pendant un moment pour voir comment ça se passe. Et en fait, c'était un peu un truc global où je commençais à avoir quelques infos intéressantes sur le végétarisme, et je me suis dit, c'est le moment. Je ne sais même plus de quelle source c'était, mais je savais que voilà, j'entendais un peu de loin des gens en parler sans forcément y accorder énormément d'importance au début. Et puis voilà, pendant que je me posais ces questions de coût, de manière très concrète au début, je me suis dit ok, on tente. Et en fait, j'y ai très vite mis du sens. Et en quelques semaines, je me suis dit, bah ok, si je suis végétarienne, mais si je pousse vraiment le truc, enfin si je réfléchis un instant, je veux pas manger du poulet, mais que je mange des œufs, c'est pas hyper logique parce que du coup, c'est plus ou moins la même industrie. Du coup, bah, on va devenir vegan. Et du coup, quelques semaines après, j'étais vegan. Voilà. Le gros et ça pas. Fait, c'était en 2013.
Ah oui, 10 ans, félicitations. 10 ans de véganisme cette année. Donc du coup, tu as toujours été un peu sensibilisée, toujours engagée d'une certaine manière. Et c'est finalement la question du véganisme qui te permet un peu de faire grandir cet engagement et vraiment aussi d'aller plus peut-être vers l'impact concrètement de certaines industries, notamment l'industrie agroalimentaire. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi tout ça? Comment tu as vécu un peu cette prise de conscience et cette avancée dans ce chemin d'engagement?
En fait, je pense que c'est dans mon rapport à l'autre qu'il y a des choses qui se passent beaucoup. En fait, si je vis seule et coupée du monde, mon véganisme, je peux l'oublier. Mais en fait, c'est par rapport à l'autre, à la fois à la société dans son entièreté qui me rappelle que en fait, c'est pas la norme, et par les interactions avec les gens. On me rappelle que c'est un peu une curiosité. Ce qui est, dans le fond de mon cœur, une norme, est en fait une curiosité pour d'autres. Curiosité, c'est quand tout se passe bien. Mais du coup, c'est ce que ça peut déclencher, c'est un genre de décalage interne, que je ne montre pas forcément aux autres, parce que c'est pas, à mon sens, la meilleure manière d'interagir, mais un peu un décalage interne de merde. Mince pour moi. Il y a des choses très logiques qui coulent de source et pour d'autres ça l'est pas. Et c'est ça qui peut, pour le coup, déclencher le plus de trucs, d'émotions internes, on va dire.
Et c'est quoi ces émotions?
Ça dépend des jours, mais ça va de la de l'incompréhension à la colère, enfin beaucoup de colère. Jamais du découragement. Mais de la fatigue parfois. En fait, la fatigue, elle va surtout être dans ces moments où on va te poser pour la 40e fois la même question. Parfois, j'ai assez d'énergie pour y répondre. Parfois, j'en ai pas. Et pour le coup, ce qui a beaucoup changé dans ces dernières années, c'est apprendre à me dire que c'est OK, des fois, de pas avoir l'énergie et qu'on ne doit l'éducation à personne.
N'est pas le porte-étendard d'une cause. Exactement. De tout le monde sur cette question-là. Donc, ça a évolué, du coup, ce rapport aux autres, toi, finalement, par rapport au début de cet engagement en 2013 et là, maintenant, 2023, tu le vis mieux, peut-être, ce rapport à ça?
Pour le coup, au début, je m'en cachais même. Au tout début, mes premières interactions, j'étais vraiment le végétarisme, véganisme, pour moi, c'était un truc où il fallait surtout pas déranger l'autre. Donc j'étais prête à faire des exceptions, pas sur le végétarisme, mais sur le véganisme, quand je me sentais que ça pouvait déranger la personne avec qui... Enfin, imposer une contrainte à la personne avec qui je discutais ou à qui j'allais au restaurant, par exemple. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, l'impact... Il n'y avait pas que l'impact écologique qui était important pour moi, il y avait l'impact vis-à-vis des animaux, et qui était quelque chose du coup que je ne disais pas parce que je voulais, je sais pas trop, je pourrais en parler avec ma psy, mais mon objectif c'était de dire que c'était pour l'impact écologique et pas forcément pour l'impact sur les animaux. Et puis après, au bout d'un moment, à force d'être quand même dans ces sphères, puisque ça reste tes sphères, hein, en fait, t'as de plus en plus d'infos et tu te dis, bah non, en fait, même si l'impact écologique, il était inexistant, l'impact sur les animaux, il est là, du coup, mon engagement, il changerait pas. Du coup, c'est devenu quelque chose qui était un peu plus que je mettais un peu plus en étendard, où je me cachais pas du fait de faire les choses aussi pour les animaux. Et donc ça a changé, on va dire, sur la première, sur la première année d'être végé.
Ça a évolué déjà en un an.
Ouais, déjà en un an, ça a pas mal évolué. Et puis après, ce qui a changé, c'est le fait que ça me tienne très à cœur de passer du temps à chaque fois à expliquer la situation à chaque personne qui me posait des questions, de me renseigner au maximum sur le sujet pour être le plus calé possible à chaque instant, être sûr que personne puisse me prendre au dépourvu quand on me posait une question. Et puis, petit à petit, en fait, à lâcher du lest et à me dire, parfois, la meilleure réponse que je peux faire aux gens, c'est n'hésite pas à aller voir sur Internet parce qu'il y a forcément des articles qui en parlent. Et si j'ai l'énergie, carrément envoyer les sources, mais sinon, vraiment, des fois, juste dire, bah, voilà, j'ai à peu près fait mon chemin là-dessus, n'hésite pas à faire le tien de ton côté parce que là, j'ai pas l'énergie pour le faire pour toi, quoi.
Non, il faut aussi se protéger, quoi.
Oui, exactement. Et faire en sorte que de ne pas se fatiguer trop non plus.
Ouais, donc du coup, tu nous parles d'éthique animale, tu nous parles de véganisme, de questions sociales. Tu m'avais expliqué d'ailleurs que tu as un engagement qui a une grosse part sociale et qu'il y avait plein d'autres causes qui te tenaient à cœur. Comment toi, tu vois le lien avec tout ça? Comment en fait, tous ces engagements qui peuvent paraître peut-être pour certaines personnes à dire oh, en fait, d'un côté, il y a des questions économiques avec le coût de la viande, d'un côté, il y a des questions environnementales, d'un côté, il y a des questions éthiques animales, il y a des questions sociales. Comment toi, tu vois tout ça se rassembler peut-être sous quelque chose qui te semble important?
Quand on avait discuté avant cet entretien, je t'avais assez rapidement parlé de la notion de convergence des luttes qui, ouais. À mon sens, est hyper, hyper importante. Je me suis un peu plus plongée dans ce que vraiment convergence des luttes veut dire socialement parlant et on va dire politiquement parlant avant qu'on discute aujourd'hui. Je me rends compte d'un truc qui est assez important à mes yeux, qui est que cette convergence des luttes, elle est hyper importante, évidemment, dans le prisme de... en fait, si d'un côté, il y a des gens véganes, et d'un autre côté, il y a des gens qui mangent bio, et d'un autre côté, il y a des gens qui font du zéro déchet, et d'un côté, il y a des gens qui sont antiracistes, et d'autres qui luttent pour le droit des femmes, c'est des actions qui resteront... chacune dans leur coin, et du coup cette notion de convergence des luttes me semble importante parce que tout est lié, et évidemment tout est lié, et il y a un peu un côté de ensemble on sera forcément plus fort, et dans le fond de chacune de ces revendications, je pense qu'il y a cette même envie de faire en sorte que le monde soit meilleur pour toutes et tous. C'est des choses, il y a plein de choses il y a un fond commun qui se regroupe. Et pour autant, la notion de convergence des luttes peut être parfois réductrice si on ne prend pas en compte l'intersectionnalité, qui est un autre gros mot, mais que je voulais aborder avec toi, qui me semble aussi importante et qui fait partie de ma construction, qui est que, en gros, l'intersectionnalité, c'est se dire le vécu du sexisme et le vécu du racisme sont deux choses différentes. Mais le vécu d'une femme racisée n'est pas juste la somme de ces deux discriminations, ça va être une expérience totalement différente qui ne s'additionne pas juste, mais qui se multiplie presque. Pour le coup, et du coup cette intersectionnalité-là, elle est hyper importante dans le sens de ne pas oublier que même si on est tous sur un fond commun de « venez, on se met ensemble et on fait en sorte que tout » soit un peu mieux pour tout le monde, on n'efface pas les vécus différents de chacun. Voilà.
Comment, au milieu de tout ça, donc, parce qu'en fait, il y a plein de problématiques, il y a plein de façons de lutter contre ces problématiques, même à un niveau individuel, déjà être engagé, de se rendre compte qu'il y a des problématiques et de le faire savoir aux personnes autour de soi, c'est déjà une forme d'engagement. Mais comment finalement tu te dis, ok, je vais aller plus loin et même professionnellement, je vais aller m'engager et je vais me focaliser sur la cause environnementale.
J'ai l'impression justement que moi, mon approche, elle est plus dans l'autre sens, qui est que vraiment l'impact professionnel, l'engagement professionnel, il est presque au cœur de tout et la condition sine qua non de mon impression d'impact et d'engagement. Et que, en fait, j'ai eu la chance d'avoir le choix depuis le début de ma carrière de travailler à peu près où je voulais, et je me vois pas aujourd'hui travailler dans une entreprise qui n'est pas au mieux neutre. Et si je travaille dans le milieu de la communication en plus, je vais être à l'aise avec ce que je dis au quotidien, avec ce que j'écris et avec tout ce que je mets, ce que je participe à mettre particulièrement en avant. Du coup, évidemment que j'ai envie d'être dans une boîte qui met en avant des choses vertueuses d'un point de vue social et ou environnemental. Pour le coup, aujourd'hui, bah, travailler dans un média qui parle d'actualité du milieu environnemental, évidemment que ça coche toutes les cases, quoi.
Et pourquoi la cause environnementale, finalement ?
Parce qu'il y a... Alors déjà, je ne suis pas totalement fermée. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes recherches d'emploi, je n'étais pas totalement fermée au fait de bosser dans une boîte avec un impact social. Mais il y a un côté d'urgence qui est assez clair. Même si, en fait, les impacts sociaux sont hyper importants et on sait qu'il y a littéralement des vies en jeu au quotidien et que c'est au cœur de notre société, du coup c'est hyper important, mais du coup il y a un petit côté, un aspect de lutte au long cours, alors que l'environnement, en fait, là, en 2023, c'est plus un truc au long cours, c'est vraiment un besoin d'impact le plus fort possible, immédiat, parce que sinon, c'est la merde,
Tu peux le dire.
Si je peux le dire, vraiment, si on fait rien, c'est la merde, quoi. Et si on fait pas assez, ce sera aussi compliqué. Donc faisons un maximum dès maintenant.
Et en plus, par la structure dans laquelle tu travailles, d'une certaine manière, tu as quand même un impact social dans le sens où vous adressez des sujets environnementaux, mais il y a un sujet totalement d'éducation dans un média qui parle d'actualité et dans une plateforme qui veut aller auprès des étudiants et des étudiantes pour les sensibiliser à ces métiers-là.
C'est tout à fait pour ça que j'ai une appétence particulière sur le fait de bosser sur emploi environnement, parce que pour le coup, c'est à la fois le fait de donner du... Bah, très concrètement, de donner du travail aux gens, je trouve que c'est un impact social assez fou.
Effectivement.
Et un impact environnemental fort, puisque on sait que c'est les générations futures qui sont hyper importantes, et les générations... et nos générations qui sont les plus... à la fois qui ont le plus de manœuvres pour pouvoir avoir un impact et qui seront potentiellement les premières, les plus touchées par les impacts hyper durs et violents de ces changements climatiques.
Ouais. Et les premiers environnementaux. Et du coup, pour revenir un peu à ton travail actuel, qu'est-ce que tu vis de ce que tu fais aujourd'hui ? Tu en as un peu parlé, du coup, mais...
Ouais. Qu'est-ce que je kiffe dans mon travail actuel ? Je crois que c'est vraiment ce dont je viens de te parler, qui est ce gros projet de faire des liens avec les écoles et les étudiants. Là, typiquement, dans les mois qui viennent, je vais avoir les premières interventions organisées dans des écoles face aux étudiants, notamment des étudiants qui sont d'un BTS Gémeaux, donc gestion... maîtrise de l'eau, je vais pas rentrer dans les détails, je ne sais plus, mais en gros c'est la gestion de l'eau qui pour le coup est nécessaire, littéralement l'eau, la vie. Voilà, et pour le coup en fait on n'y pense pas forcément quand on pense aux métiers de l'environnement, sauf qu'en fait c'est des métiers qui sont hyper importants, qui sont centraux, un peu comme on le voit aujourd'hui, la gestion des déchets. On ne le voit pas sur un prisme environnemental, mais là, juste le fait que les reapers soient en grève en ce moment, en fait, on voit à quel point c'est des enjeux qui sont centraux. Donc, ces métiers de l'eau, ils sont évidemment centraux. Et donc là, je vais être au contact d'étudiants pour savoir ce qu'ils auraient aimé entendre, ce qu'ils ont envie d'entendre et ce dont ils ont besoin aujourd'hui pour avancer dans leur carrière et ce dont ils auraient eu besoin au lycée, par exemple, pour, je sais pas, découvrir plus tôt qu'en fait, il était possible d'avoir ces formations-là, et aussi que c'est des formations qui sont hyper, hyper importantes pour l'avenir de notre pays, mais et aussi, surtout, de cette planète. Du coup, voilà, j'ai hâte d'avoir ces discussions-là avec ces étudiants, que j'ai déjà pu un peu rencontrer sur certains salons. Et ça, ouais, ça, c'est le truc qui va me me motive le plus, on va dire, au quotidien.
Et qu'est-ce que ça génère chez toi de porter ce projet ? Parce qu'on a parlé beaucoup d'émotions négatives et de... Mais qu'est-ce que du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de positifs chez toi que ça génère de porter un tel projet ?
Oui, bien sûr, bah, y a, je ne vais pas le cacher, un petit grain de fierté à se dire qu'on participe à tout ça. Voilà, oui. Elle est là, évidemment. Et je ne sais pas ce que c'est l'émotion derrière, mais ça me rassure un peu aussi de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont portées par des gens qui sont sincères, notamment parce que moi je suis là et que je sais que ça l'est, parce qu'au milieu de beaucoup de greenwashing dans plein de situations particulières, on pourrait croire qu'en fait du coup, tomber dans le truc de tous pourris et que dès qu'on met en avant ce genre d'initiative, c'est qu'il y a un truc mauvais qui se cache derrière, alors qu'en fait je suis là, je suis en train de le faire, donc je sais que moi mes ambitions elles sont louables et que l'objectif c'est il est vraiment positif. Du coup, ouais, il y a un truc un peu de réassurance, je sais pas si le mot existe, mais c'est un peu ça que je ressens.
De réassurance. Je sais pas si ça existe non plus.
Mais je sais que je l'utilise dans mon métier, mais je sais pas si c'est un mot qu'on utilise en marketing ou si c'est un mot qui existe vraiment dans la vie.
C'est quoi la réassurance ?
C'est le français de reassurance, enfin, c'est se rassurer quoi.
Ouais.
T'as vu mon superbe accent, voilà.
Oui, c'était beau. Et du coup, toi dans ton métier et peut-être dans ton secteur globalement, c'est quoi les défis aujourd'hui que vous avez à relever ? Est-ce qu'il y a des freins que vous rencontrez ? Quels sont, ouais, au quotidien ou de façon plus globale, les défis et les freins ?
Le défi en tant qu'entreprise, c'est qu'on n'est pas les seuls à vouloir le faire, mais c'est en soi plutôt rassurant puisque ça veut dire que globalement, on est de plus en plus à vouloir le faire. Donc c'est qu'il se passe un truc.
Bien,
du coup, l'objectif, c'est pas de prendre tout le gâteau, c'est faire en sorte que tout le monde ait une part du gâteau. Et du coup, c'est super quand on voit qu'il y a plein de choses qui se mettent en place en même temps. Et après, les freins, c'est aussi qu'on parle métier de l'industrie et que l'industrie elle est pas toujours prête à faire de gros changements rapides au quotidien. Après, en toute honnêteté, je vais pas rentrer dans d'énormes détails puisque c'est notre rédaction de journalistes qui est le plus à même à parler vraiment des gros choses que eux peuvent rencontrer quand ils créent des sujets, mais je sais que voilà, c'est des gros freins d'industrie, ça reste de l'industrie, de l'industriel, et même si on est dans une société, même dans un monde où l'industrie est nécessaire, notamment parce que l'industrie c'est aussi, recycler des déchets, ça reste des grosses machines, quoi. Donc c'est compliqué de faire bouger les grosses machines.
Effectivement. Et puis peut-être aussi tout simplement le défi de faire savoir, comme tu disais, de sensibilisation à ces métiers-là qui vont être ultra nécessaires et qu'on sait qu'ils sont de plus en plus manquants. En fait, on a une transition à faire et il nous faut de la main-d'œuvre sur plein de sujets différents pour cette transition.
Carrément, là, sur les BTS dont je te parlais à l'instant, les BTS Gémeaux, par exemple, je t'en parle parce que c'est vraiment là-dedans que je suis vraiment en ce moment. En fait, il y a plein de classes qui ferment et on parle de classes, je sais pas, il y a peut-être une trentaine de promos sur le territoire. On parle de classes d'une vingtaine d'élèves et pourtant il y a des classes qui ferment parce qu'en fait ils galèrent à trouver du monde et en fait on sait qu'on va être en pénurie sur les sujets de l'énergie, aussi sur les sujets de la gestion des déchets, parce que les métiers sont en changement, on a besoin de gens qui se forment dès maintenant parce qu'en fait on aurait potentiellement besoin d'eux dès demain. Sauf que pour faire connaître ces nouvelles formations, ces nouveaux types de formations et les rendre les rendre désirables, voilà, c'est ça le mot que je voulais, pour rendre désirables ces formations, il y a tout un truc de pédagogie, de se dire à la fois faire en sorte que ces métiers soient mieux traités, mais aussi de montrer à quel point ils ont un impact hyper important.
Du coup, si on reprend tout ça, toute la vie de Yuna, du début de ses engagements à maintenant, qu'est-ce que tu penses qui a changé genre dans les grandes lignes. Qu'est-ce que la Yuna d'il y a plus de 10 ans et qu'est-ce que la Yuna de maintenant, qu'est-ce qui a évolué pour toi, si tu devais refaire un petit bilan de tout ça?
Je dirais que j'ai l'impression que je me sens peut-être plus fatiguée, mais je me sens quand même avec plus de rage et de je me sens nourrie de tout ça en fait. Pour le coup, je me sens vraiment nourrie de tout ça, et même les jours où ça me fatigue, je sais pas, c'est une flamme qui reste là, quoi, qui peut de temps en temps pas s'éteindre, mais justement qui s'amoindrit parfois peut-être, mais qui est une flamme qui brûle fort la plupart du temps et qui motive au quotidien à se dire que tout ce qu'on fait c'est pour avoir un monde désirable, justement,
et vivable.
Oui.
Donc l'apprentissage de ces dernières années, c'est que ça fatigue, c'est pas toujours facile, mais résiliente, et façon, il va falloir y aller, il faut être là, quoi.
Exactement. Et aussi, je pense que je le pensais il y a 10 ans, mais j'en étais pas forcément sûre. Aujourd'hui, je suis particulièrement sûre du fait que, déjà que le monde qu'on est en train d'essayer de construire est un monde toujours désirable. Depuis que j'ai retrouvé ce mot, j'ai envie de le mettre partout, mais vraiment désirable. C'est un monde désirable qu'on veut construire pour toutes et tous. Et aussi que, en fait, la meilleure manière de vivre au quotidien, c'est en étant en accord avec ses valeurs. Et que je serais peut-être beaucoup plus fatiguée dans la vie si, moralement, je faisais un peu n'importe quoi. Justement parce que ce serait pas mon vrai moi et que ce serait pas ok pour moi, quoi.
Donc le fait de t'aligner, finalement, ça a dû changer des choses dans ta vie, dans ta façon de vivre, dans ton rapport à plein de choses, mais ça t'a permis de retrouver quand même un alignement avec toi-même qui finalement reste le plus important pour vivre au quotidien, quoi.
Pour le coup, là, si on veut lancer un autre gros mot qui est celui de la charge mentale, je pense que être en permanence en train de penser au mal que je peux faire, enfin que j'aurais pu faire, serait plus dérangeant que cette charge mentale permanente d'être en permanence en train de me remettre en question et de me dire que je fais du bien. Et du coup, ça me prend de l'énergie, mais je fais du bien quand même.
Bien qu'on en a parlé aussi, mais dans tout ça, il faut peut-être trouver l'équilibre entre ne pas non plus trop se surresponsabiliser et de dire que bah, parfois on fait des actions, on s'est éduqué sur la question, on sait que c'est pas la meilleure chose, mais on peut pas tout porter.
Oui, c'est vrai que c'est un point qu'il fallait pas qu'on oublie et qu'on s'était dit quand on avait discuté ensemble, qui de toute façon nous semble très important. Et je pense aussi pour l'ensemble des pépites vertes, qui est vraiment ok, on n'est pas parfaite, mais c'est ok. Et pour moi, ça va pas à l'encontre de ce que je dis juste avant, parce qu'en fait je sais que je fais mon 100% d'aujourd'hui, et mon 100% d'aujourd'hui potentiellement c'est mon 40% de demain, mais c'est ok, là maintenant, avec ce que j'ai comme énergie, comme ressources, comme connaissances, comme moyens, comme quoi que ce soit, je fais comme je peux, et du coup je suis ok avec ça. Et peut-être que hier j'ai pu faire plus, mais parce que hier j'étais dans des circonstances différentes. Peut-être que demain je ferai plus, parce que demain j'aurai de nouvelles choses entre les mains. Mais c'est ok.
Du coup, là tu viens déjà de donner un peu des conseils, mais est-ce que on pourrait finir cet échange sur des conseils qu'on pourrait justement donner à des personnes qui nous écoutent et qui se posent ces questions de comment un peu apaiser toutes ces émotions qu'on vit, comment les accepter? Comment avancer, quoi, sur ce chemin de l'engagement, finalement?
Je trouve que c'est hyper important de se rapprocher des gens. Pour le coup, c'est un truc que j'ai vachement ressenti en rejoignant les Pépites Vertes, mais avec d'autres communautés aussi, d'en fait se dire... En fait, la notion de communauté, je la trouve assez intéressante. Non pas pour vivre dans une bulle, mais pour se dire qu'on n'est pas seul. Donc ouais, le lien à l'autre est hyper important. Si l'objectif c'est de pas être en ce qu'on peut appeler un burn-out
militant.
Burn-out militant, voilà, merci. C'est de faire des pauses des fois, et c'est ok. C'est pas parce que pendant quelques temps, on va. Je sais pas, si on peut pas aller en manif un jour, c'est ok. Il y a plein. Il y a la beauté des choses, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres gens qui y seront aussi. Parce qu'il y en a qui ont la possibilité, l'énergie de le faire ce jour-là, et voilà, c'est tant mieux. Parfois, se reposer, se couper de l'info aussi. Je sais, par exemple, que moi, c'est pas mon cas, mais je sais que je connais des gens qui ont créé, par exemple, un compte Instagram sur lequel ils suivent que des comptes engagés d'une manière ou d'une autre, que ce soit écologique, sociale, enfin, voilà. Et du coup, ils vont sur ces réseaux sociaux-là uniquement quand ils ont l'énergie pour se renseigner, pour militer, voilà. Et par contre, le reste de leur Instagram, sur leur Instagram classique, c'est juste des petits chats et des dessins mignons parce que c'est important aussi. Voilà. Je pense que prendre soin de soi, c'est une forme de. C'est aussi une forme de militantisme dans le sens où, en fait. On se préserve pour les moments où on aura vraiment besoin de nous et montrer que toujours que c'est ok et qu'on peut vivre de manière hyper belle et saine tout en s'engageant au quotidien de manière ou d'une autre.
Prendre soin de soi, c'est prendre soin du monde finalement.
Exactement.
Et ce sera les trois grands conseils de la fin. Entourez-vous, écoutez-vous, protégez-vous. Merci beaucoup Yuna pour cet échange. Merci beaucoup de nous avoir partagé tout ton vécu et ses conseils.
Merci à toi Maïs.
Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les différentes ressources mentionnées dans la description. Si cet échange vous a plu, vous pouvez vous abonner au podcast des Pépites et aller liker, noter, commenter sur Apple Podcasts. Un prochain épisode arrive bientôt. D'ici là, vous pouvez retrouver les Pépites Vertes sur Instagram et sur LinkedIn. À très vite !